Radio Royan vous présente un feuilleton balade patrimonial avec les amis du vieux Saint-André. En allant au pont, par le paradis. Sous la conduite de François et Marie-Noël Capéran, l'association basée à Saint-André-en-Royan invitait pour ce jour d'octobre 2012 des passionnés ou simples curieux à rejoindre à pied depuis le village de Saint-André, Pont-en-Royan, où nous attend Gilles Méus de l'association patrimoniale Si Pont m'était compté. Balade empruntant un chemin historique avec de nombreuses traces de lieux faisant état d'un riche patrimoine en mouvement. Ce parcours effectué à cette occasion fait référence au circuit numéro 3 du livret Bienvenue à Saint-André, édité par l'association et proposant de multiples et divers circuits depuis le village. Distance allée 3,3 km, retour 3,9 km, dénivelé 200 mètres.
Voilà.
Bonjour. Salut à toi.
Bonjour. Bonsoir de Paris.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Paul, Pont-en-Royan.
Bonjour, ben là.
Un petit café. Aujourd'hui, première partie, depuis Saint-André, où nous attendent Marie-Noël et François Capéran, accueil, petit café, et on se prépare pour cette balade.
Voilà, je suis que c'est un bel accueil. Hein. Et puis avec le
alors,
temps,
il va pas pleuvoir.
Il paraît qu'il va pas pleuvoir. Voilà, tu veux du sucre ?
Un sucre.
Voilà, voilà. Ben,
ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était du sérieux, ah, là, la balade.
Oui, non, mais ça va aller.
Voilà. Est-ce que vous avez pris un comme ça ?
C'est bon.
Comment je fais ? Voilà, ça c'est les mots.
Tout
ça, on va mettre
tout ça.
Oui, ça,
il y a le cramé.
Là, ça aussi.
Comment ?
On se retrouve devant la voie.
Non, mais c'est marrant, devant les pissotières, les pissotières, de mettre des belles fleurs.
De toute façon, les toilettes.
Ça fait super joli, hein.
C'est le livre plus culturel. Moi, je passe plus de temps à lire dans les toilettes qu'ailleurs. Hein.
Donc là, nous avons rendez-vous devant le lavoir. Le lavoir qui, dans les années 1950, était encore bien utilisé par toutes les dames de Saint-André et aussi par les petites filles qui venaient faire la lessive de leurs affaires de poupées. Et les dames qui faisaient beaucoup de causettes ici, c'était le lieu, le dernier salon où l'on causait. Ce lavoir en ciment et date à peu près de 1850 et 1900. Autrefois, donc à l'époque de ce lavoir, il y avait un bassin de pierre qui était juste derrière ce lavoir en ciment et qui réceptionnait les eaux des vieilles fontaines de la source au pied de la roche. Voilà. Et de ce lavoir, de ce poste, on peut voir l'emplacement de l'ancien village. Vous pouvez venir voir là. Vous allez essayer de trouver. Nous apercevons, il y a un champ au-dessus du toit, au fait un champ bien vert, à l'orée des autres arbres. Oui. Il y a un sapin. Vous le voyez tous ?
Oui.
Ben, le sapin, il a poussé là où il y avait un château garnison qui protégeait Pont à l'époque. On en reparlera sans doute. Et donc, il a poussé dans la cour de ce château. Et à droite de ce sapin, dans tous les arbres, dans les fourrés, c'est l'emplacement du village. Le village qui existait dans les années 1200 jusqu'à ce qu'il soit détruit et brûlé pendant les guerres de religion.
Je vais parler des seigneurs de Saint-André, les seigneurs successifs de Saint-André. En premier, le château était tout seul et il est resté tout seul jusqu'aux guerres de religion. Ce n'est qu'après les guerres de religion, en 1573, que le village dont parlait Marie-Noël là-haut a été brûlé et que le nouveau seigneur de Saint-André, le sieur de Prugné, seigneur Artus de Prugné, a autorisé les gens de Saint-André à venir bâtir leur maison à l'intérieur des murs de Saint-André, du château de Saint-André. Ces maisons ne leur appartenaient pas, voilà. Hein, elles appartenaient au seigneur qui les louait à l'année, en quelque sorte, avec un bail presque gratuit, puisque c'était de l'ordre de un poulet par an. Hein. Voilà. Alors, les premiers seigneurs ont été les dauphins du Viennois. Hein. Guy Gandré a sans doute, et peut-être sans doute, venu vers ici, puisqu'on atteste le village de Saint-André depuis 1127, et donc il y avait une bâtie, la bâtie de Saint-André, qui était ici, les dauphins du Viennois. Après, ça va être les Bérangers, parce que en 1250, ils vont échanger, les dauphins du Viennois vont échanger leur tenure avec les Bérangers. Les Bérangers, ça les intéressait parce qu'ils étaient à Pont et ils étaient à la bâtie, donc c'était toute la partie du Royan sur laquelle ils étaient bien implantés. Et donc, ils vont faire cet échange et récupérer, en même temps que Saint-André en Royan, les champs de Champeverse, qui sont sur Presles, le Presles également. Ils vont récupérer Aubrive et ils vont récupérer également Châtelut. Hein. Et ce paquet cadeau, c'est quatre ou cinq petites communautés, vont être chaque fois citées quand le nouveau seigneur de Saint-André va acheter Artus Prugné, dont j'ai parlé, va acheter Saint-André, il va acheter l'ensemble des cinq petites parcelles, enfin cinq villages.
On appellera des communes après.
Alors, qu'on appellera des communes et qu'on appelait avant des paroisses.
Ah, des paroisses, merci. Ah, d'accord.
Alors après, il va y avoir les Bérangers Sassenage, parce que les Bérangers vont récupérer les biens des Sassenage et donc vont faire allégeance in extremis au dauphin du Viennois, Humbert II. Parce que quelques années après, le Dauphiné va passer à la France. Et sans cette allégeance, les seigneurs du Royan auraient été indépendants par rapport, n'auraient pas été tenus de rentrer dans le royaume de France, hein, par cet échange. Après, vous avez les Clermont qui vont se marier avec Françoise, Antoine de Clermont va se marier avec Françoise Béranger-Sassenage. Et puis après, ça sera les Clermont tout seuls. Et puis, vous aurez les François d'Agout. Ah bon. Ça, c'est quelque chose qui est... Il est resté 20 ans propriétaire du château, il l'a acheté, et il a été un peu obligé de le vendre, peu de temps après ses 20 ans. Et il a eu sans doute du nez, parce que quand il l'a vendu en 1563, je crois que les guerres de religion n'avaient pas encore était présente dans Saint-André.
Ils ont commencé en 62.
Voilà, et pratiquement juste après, ça a été le déchaînement, et les protestants ont pris et repris plusieurs fois de suite le château, et puis jusqu'en 1573, où ils vont brûler la totalité du village vers lequel on va aller. Alors, pour finir, il y a eu donc les Pruniers qui ont acheté ça en 1563, et puis après, il va y avoir Françoise Prugnier qui va se marier avec Aimé de Marcieux. Et là, ça va être les Marcieux, mais il y aura la Révolution et tout va être balayé. On va donc aller vers le village ancien, le vieux village.
En empruntant le chemin de la vieille église. Et ce chemin, il a été emprunté pendant presque 100 ans, ou la période après les guerres de religion, où il n'y avait plus d'église, mais le cimetière était... Ils ont continué pendant une centaine d'années à enterrer leurs morts là-haut. Alors vous allez voir, vu la grimpette, que ça ne devait pas être facile de monter un cercueil là-haut. Enfin, voilà.
Et les Marcieux, c'est lié aussi à l'Artaudière, ça?
C'est lié à la Claudière, c'est lié également au château du Touvet, où il y a, d'ailleurs dans le petit fascicule, on parle de ce plan de Saint-André qui est gardé au château du Touvet.
Oui, tu nous racontais même que l'hôtel qui est derrière, il vient de l'ancien village.
Voilà, il vient de l'ancien, de l'ancienne église du village.
Je pensais, et on commence parce que
sinon... On fait la grimpette, là.
Ah oui, l'hôtel de l'église.
En tout cas, là, on commence à amorcer un certain dénivelé, quand même.
Ouais. Alors, tu vois un peu les enterrements qui avaient lieu. Alors, c'était une confrérie des pénitents. Pénitents blancs, pénitents du Saint-Sacrement. Et ils étaient, bien sûr, tenus d'enterrer les morts et d'aller accompagner le curé quand il amenait les sacrements de mort, quoi, quand il allait écouter en confession des gens. Et eux, donc, ils se payaient cette montée. Je pense qu'ils devaient le faire quand même avec un charroi ou un...
Saint-André, c'est à quelle altitude ?
430 et quelques mètres.
Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que le pont est à 200 mètres. Alors, pourquoi on monte et on descend pas ?
Ah ben, tu vas voir. Tu vas monter, redescendre et redescendre après.
Ah bon ? Ouais.
On a une altitude que là, on monte.
200 mètres, mais comme on a.
Et alors, Saint-André a dû être une très grosse bourgade à une époque.
On a eu jusqu'à 1500 personnes. 1500. Et alors, l'époque... plus importante du peuplement...
Pardon.
Merci bien. Faut pas aller sous les arbres, sinon tu te fais bombarder. Hein.
Ah oui. Ça a été l'époque juste avant la Révolution. Et alors là, il y a une explosion de naissance et de jeunesse après. Et on se demande si la politique des parents n'a pas été d'envoyer les enfants le plus loin possible pour chercher des métiers et de la réussite, quoi.
Ah si.
Les gens ont beaucoup d'endroits et l'habitude d'habiter comme ça, contre les coteaux. Et ils étaient loin en fait, des châteaux, ils étaient.
Oui, oui.
Est-ce que tu as dit que c'était autrefois la région, la partie de Saint-André où il y avait des noyers, c'est-à-dire avec un sol très caillouteux, en pente. Et que dans la plaine de Saint-André, il n'y avait pas de noyer. Mais bon,
non, mais avant,
cause des...
Noël,
oh,
avant,
mais toi, tu parles
cette
avant,
partie-là
avant.
Était toute en vigne.
Ouais.
Et on appelait l'endroit où on monte, au moment des 1700, on appelait cet endroit les vignes mortes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu tellement de bises et de froid en 1700 que...
Elles sont toutes tombées cette nuit.
Parce que le vin de Saint-André était bien connu et surtout, il faisait, alors ça m'a toujours étonné, il faisait concurrence au vin de Choranche. Hein, tiens, alors c'est quelque chose, il faut le faire. Mais voilà. Et donc il y avait beaucoup d'échanges entre les gens de Saint-André, ceux de Châtelus et en conséquent de Choranche.
Là, on est arrivé sur le chemin plat du rocher et on a une belle vue sur le village et plus loin surtout la plaine de l'Isère. On aperçoit un petit rayon de soleil sur Romans. Oui, Saint-Nazaire est caché par un arbre. On pourrait voir avec des jumelles le château de Rochechinard, là qui est dans la...
On le devine.
Voilà, il y a des champs un peu dégagés, des bois, et il est quelque part par là. Alors en général, on se repérait, il y a un pylône sur le rocher, et si on descend, normalement le château est par là. Ce circuit s'appelle... En allant au pont par le paradis, là, on est à la station 2. Hein, un étant le départ devant le lavoir et deux étant le démarrage du chemin de la vieille église. Là, nous venons d'arriver sur le chemin de la roche qui est plat et nous allons passer à côté des restes de l'ancien village. Détruit pendant les guerres de religion. Voilà. Alors, à Saint-André, pour trouver pour la météo, c'est en fonction de Toulaud. Et voilà que Toulaud a un chapeau de nuages, donc c'est pas très bon. Moi, c'est pas encore le beau temps. Et c'est surtout mauvais tant qu'il a, aussi après, l'hiver, tant qu'il a un chapeau blanc, la neige, on n'est pas encore passé au printemps.
Voilà. C'est ce qu'on dit du Mont Blanc.
On voit, il y a le plateau de Lente, hein, de la forêt de Lente. Et à droite, entre l'arbre et le plateau de la forêt de Lente, il y a un sommet que l'on ne voit pas à cause des nuages. C'est Toulaud. Voilà.
Il est loin aussi, Toulaud. Hein.
Oui. Oui, oui.
Village, on le voit.
Ah oui, de chez nous, du village, on le voit très bien. Et on se repère souvent pour la météo par là-bas, mais la météo plus saisonnière. Par contre, au village, pour se repérer sur le beau temps ou pas le beau temps, on regarde à l'ouest, la vallée de l'Isère. Si c'est mauvais le soir, eh bien, le lendemain, il fait mauvais. Hein. Moi, j'avais une maman qui allait voir, elle pouvait nous dire la météo à l'époque où la météo n'existait pas. En tous les cas, on n'en parlait pas.
Oui.
Voilà. Alors ici, enfant, avec mon instituteur, on venait de temps en temps pour un petit peu faire de la géographie locale. Et il nous faisait viser... Ceci surtout par temps de beau temps, mais là on le devinerait presque, mais il y a un arbre qui nous cache. Le mont Gerbier-des-Joncs, et c'est comme ça qu'on savait tous que la Loire prenait sa source au mont Gerbier-des-Joncs. Alors que maintenant il n'y a pas beaucoup d'enfants qui le savent. Et cette année, nous, on est allés se promener pour revoir en vrai le mont Gerbier-des-Joncs et les sources de la Loire. Voilà, je crois qu'on va continuer notre balade. Alors là, donc, nous sommes sur le chemin.
C'est difficile.
Un parterre de noix.
Comment ils font pour les ramasser alors?
Elles sont grosses.
Comment ils font pour les ramasser?
Là, à la main.
À la main.
Ah oui. Alors maintenant, ils ont un petit. Un petit écureuil, une cache d'écureuil, et que l'on roule. Et du coup, on n'a pas besoin de trop se baisser. Il y a pas mal de personnes d'un certain âge qui se sont mis à cette situation.
Ils avaient des grandes tiges, ils golaient. Maintenant, ils branlent, vous voyez, avec des machines spéciales, là. Des petits tracteurs très plats.
En Normandie, on golait.
Mais ça les abîme, hein, les arbres. Ça, c'est intéressant.
Thank you. une vue assez panoramique sur tout Saint-André. Au premier plan, ici, il y a le village. On aperçoit donc le château de la famille de Prunier. On aperçoit à gauche le château de Beaujour, qui est de la famille de Lyonne. Mais là, on en parlera aussi d'autres moments. Et alors derrière, sur ce vallon bien vert, c'est le hameau de Tarze, où on voit quelques maisons, là un peu parsemées. À gauche, un peu caché, oui, dans des noyers, hein, il y a une maison, un quartier qui s'appelle la Bouillerate. Parce qu'en fait, il y avait un nommé Bouillerat qui était bouilleur de cru. Donc, ce quartier a pris le nom de Bouillerate. Plus à gauche, après, c'est l'Enchère. Alors, l'Enchère, bon, on ne sait pas bien l'origine de l'Enchère.
Avec un A.
À moins. Comment ?
Un A ou un E ?
Un E.
Oui, oui. Et c'est un hameau qui devient de plus en plus important parce qu'il y a pas mal de constructions. C'est le hameau qui va jusqu'à Aubrive. D'ailleurs, il y a une partie de la commune de Saint-André qui côtoie Aubrive. Et il y a eu des changements de frontières à l'occasion de fabrication de routes. Enfin, voilà, de changements de routes. D'ici, on aperçoit qu'un tout petit peu, en revenant vers le village, mais à gauche, une grosse ferme, une grosse maison assez basse. Ce quartier s'appelle Froment. Bon, on le devine parce qu'on devait cultiver le blé, le froment dans ce coin. Et juste à côté, il y a le cimetière. Donc on l'aperçoit.
Le nouveau cimetière.
Le nouveau cimetière.
Oui, puisque l'autre
Puisqu'il y en a eu un ici, dans notre dos. Après, un à côté de l'église, à partir de 1700. Alors, j'ai fait le village, hameau de Tarze, Bouillerate, l'Enchère. Alors, il y a aussi, à gauche, ce petit hameau, c'est la grainerie. Bon, je suppose que les graines, ont beaucoup de noms, sont déterminés par un peu ce que l'on cultivait dans ces coins. Ici, je crois qu'on ne voit pas grand-chose d'autre. Par contre, on voit bien la vallée de l'Isère. On aperçoit Saint-Hilaire, le clocher. La Saône, on ne le voit pas parce qu'il est caché dans le trou, hein, dans la vallée de l'Isère. On voit la montagne qui aboutit à Saint-Nazaire. Alors, par temps clair, on devrait voir l'aqueduc, mais là, on ne le voit, on ne le devine pas. C'est le pied de la montagne, là-bas. Voilà, je crois que pour ce panorama qui...
Est-ce qu'on voit de l'autre côté de l'Isère? Qu'est-ce que c'est?
Ah ben c'est les champs. Plus à droite, c'est les champs barons.
Ouais, mais les villages?
Ah, les villages.
Ben, c'est Vinet, non?
Non. Vinet, c'est plus là-bas.
C'est à gauche de Vinet, ici. Hein.
Oui,
Vinet,
oui.
C'est nettement à droite.
Oui, 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 oui,
on
là-bas.
Peut
c'est à droite.
Voilà. Après, il faut encore...
La vallée de Valence, enfin de Romans, a du soleil en ce moment. Pas beaucoup, mais elle en a un petit peu. Il y a quelques coins de ciel bleu. Ils ont un peu plus de chance. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un sapin qui nous faisait deviner l'emplacement d'un ancien château qui a existé pendant une centaine d'années, avant les guerres de religion. Et donc c'est dans cette direction-là, c'est le long de ce... On devine un autre chemin là, qui a des...
Il y a des piquets.
Ah ouais. Et on le suit et c'est à droite, pas très loin d'ici.
Là, on voit pas de sapin. Hein,
mais non, on le voit pas parce qu'on est trop près.
D'accord.
On le voyait d'en bas, hein, voilà. Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est difficile de le repérer parce que même quand on est sur le chemin, on le revoit plus, hein, parce que la végétation a pris le dessus. Ça serait facile d'aller le. On sait exactement où il était.
J'ai
on connaît
compris,
le propriétaire. Mais les propriétaires n'aiment pas trop que l'on...
On amène des groupes.
Oui, qu'on amène du monde. Donc, on est allé une fois, on a un peu gratté un peu pour voir, pour être sûr qu'on était bien sur un endroit de château. Il n'y a pas de doute possible. Hein. Mais bon, on n'a pas fait plus.
Ils vont amener des détecteurs de métaux, tout ça.
Oui, 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 oui.
Il y en a qui viennent qui ont avant nous.
Récupéré pas mal de choses. Surtout que c'est un chemin qui date sans doute des Romains.
Ah, d'accord.
Le fait qu'il soit construit, non pas une voie romaine, mais un chemin qui permettait d'aller à Beauvoir, par l'arrière et à Champeverse. Alors, il est dit que ce château, en 1440, était un château qui s'appelait Durfort, et qu'il avait en gros 25 cavaliers de gendarmes.
De gens d'armes.
Voilà. Et donc, ces gens-là, suivant les indications du petit seigneur qui était en bas, aller à droite ou à gauche, ou étaient là pour protéger à cheval. Au moment des guerres de religion, les gens n'y étaient plus. Ils étaient à Pont-en-Royans. Ça, on le sait. Parce qu'il y avait eu, justement, quand je vous ai parlé de ça, il n'y avait plus de Béranger Sassenage ici. Hein, voilà.
Le nom de Saint-André n'a jamais varié, même pendant la Révolution.
Si, il s'est appelé André Laroche.
Ah. Et la question, comment était protégé le château avant les guerres
par les gens qui étaient là-haut.
Il y avait des remparts autour. Ce château qui était tout seul.
Il y avait des remparts. Alors, on voit un mur qui descend le long de la petite route qui n'est plus utilisée. Hein, et ce ne sont pas les remparts. Les remparts sont un peu plus loin. Ils n'ont jamais été très défensifs. Et c'est pour ça que le château a été au moins repris 4 ou 5 fois. Hein. Pendant les 30 ou 40 années, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ils rentraient comme dans un moulin. Là. Mais en toute façon, les seigneurs n'y étaient pas. Hein. Les seigneurs étaient des présidents du Parlement de Grenoble. Et donc, ils étaient à Grenoble. Et ils venaient ici toucher les prébendes deux fois par an. Quoi.
Et qu'ils habitaient alors ?
Qu'il habitait. Alors il y avait le châtelain, il y avait un juge mage, puisqu'ils avaient le droit de petite justice, et il y avait un intendant.
Et il n'y avait pas quelqu'un d'église ?
Alors il y avait le curé était là, oui. Hein, c'était un prieur. Il n'a pas toujours. Il se partageait avec Nacon. Hein. C'était quand même assez important parce qu'il y avait autant de gens en 1400 que maintenant. Hein, normalement, si on compte le nombre de feux et qu'on multiplie par un chiffre qui est à cette époque-là, pour chaque feu, il y avait 6 ou 7 personnes, on arrive au chiffre de 300 personnes que l'on est maintenant. Voilà.
Sauf que maintenant, pour un feu, c'est 2 personnes ou 3.
Tiens, tu parlais de ce qui est long pendant la Révolution.
À suivre, cette balade patrimoniale depuis Saint-André-en-Royan à Pont-en-Royan par le Paradis avec l'association des Amis du Vieux Saint-André emmenée par Marie-Noël et François Capéran.